Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Thomas Romer, merci d'avoir accepté cet entretien. Depuis le 5 février 2009, date de votre leçon inaugurale, publiée chez Fayard sous le titre « Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire », vous êtes titulaire de la chaire « Milieu biblique au Collège de France ». Cet intitulé a fait date, puisque c'est la première fois que le mot « Bible » était introduit dans l'intitulé d'une chaire, donc vous êtes allemand, vous avez fait une grande partie de vos études en France, puis vous avez enseigné en Suisse, et vous étiez doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne quand vous avez été élu au Collège de France. Alors, vous y avez entièrement renouvelé la lecture de la Bible, et si vous voulez bien, nous allons avec vous ce matin faire le point sur vos travaux depuis 2009, donc sur les travaux de la chaire Milieu biblique. Vous avez publié de nombreux livres, dont un livre très grand public en 2014, « La Bible, quelles histoires ?», un entretien avec Estelle Villeneuve paru chez Bayard, où tout un chacun peut lire et comprendre comment vous voyez les choses. Votre site internet est fort bien fait, tout le monde peut y trouver des informations fondamentales et y écouter vos cours. Et donc, nous allons un peu mettre de côté tout ce que tout le monde peut trouver sur vos travaux. Par contre, on sait que la Bible est un gigantesque copier-coller de textes mésopotamiens, assyriens, grecs et peut-être zoroastriens. Ce n'est pas un livre historique, mais il éclaire un grand nombre de questions historiques. Et il a été rédigé en réponse à une crise politique profonde, donc la destruction de Jérusalem. Nous sommes en 2016, vous enseignez maintenant depuis 7 ans, chiffre biblique hautement symbolique.
Tout à fait.
Comment pouvez-vous, Thomas Romer, présenter ce livre magnifique? C'est un livre récent.
C'est un livre récent, mais c'est une immense bibliothèque, justement, que, comme vous venez de le rappeler, a une histoire quand même sur plusieurs siècles et qui, en fait, regroupe tous les écrits fondateurs pour ce qui va devenir le judaïsme. Donc, c'est une bibliothèque qui contient des choses très différentes, parfois même contradictoires. Et ce qui est fascinant, ce qui me fascine, c'est qu'une religion puisse se baser, en fait, sur une telle diversité, en fait, tout en trouvant une certaine unité dans la pratique de la lecture, en fait. C'est plus la pratique de la lecture et de l'interprétation que, comment dire, que la vérité du texte, qui est une obsession des milieux littéralistes et fondamentalistes qui est important. Donc, c'est pas tellement de savoir est-ce que les choses se sont vraiment passées comme ça. Pour beaucoup de choses, surtout dans le Pentateuch, c'est en effet des récits mythiques. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de ces récits-là, va se constituer, en fait, une communauté de lecteurs et surtout d'interprètes.
Alors, vos cours ont donc porté en grande partie sur des personnages mythologiques fondateurs du judaïsme. 2 ans de cours sur Abraham, 2 ans sur le livre de l'Exode, sur Moïse et compagnie, c'est-à-dire les Madianites, Yahvé, etc. Et maintenant un cycle sur Joseph. Ce sont des personnages qui absorbent un grand nombre de traditions. Ce sont des personnages qui ont un potentiel textuel inouï très hétérogène, et ils ont surtout des rapports très étonnants avec l'Égypte. Alors, Thomas Romer.
Oui, surtout Moïse ou l'Exode et Joseph.
Abraham aussi,
c'est vrai qu'Abraham, depuis le descend en Égypte, Mais par rapport à Joseph, l'Égypte, ça reste un épisode dans ses pérégrinations, alors que, évidemment, le rapport à l'Égypte est fondamental dans l'histoire de l'Exode et puis, évidemment, dans l'histoire de Joseph. Ce qui est intéressant quand on regarde Abraham, Moïse et Joseph par rapport à l'Égypte, on voit quand même qu'il y a des images assez différentes de l'Égypte qui se présentent. Lorsqu'Abraham descend, il a l'idée que l'Égypte est un endroit vraiment horrible, et donc on va lui prendre sa femme qu'il va faire du coup passer pour sa sœur, puis la pauvre...
Enfin, il l'offre à Pharaon.
Il l'offre, c'est-à-dire, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire il s'enrichit parce que comme il se présente comme le frère, le pharaon, séduit par la beauté de la femme, qui, selon la chronologie, devait avoir plus que 70 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Le pharaon, donc, la prend dans son harem, et puis, évidemment, la prend pas seulement pour la regarder. Donc, en effet, Abraham s'enrichit, puisqu'il reçoit la dot pour sa prétendue sœur. Mais du coup, donc, il y a évidemment un acte qui est commis par le pharaon, mais de manière inconsciente. Donc, Dieu, Yahvé, se manifeste. Et puis, Pharaon est en fait, agit de manière tout à fait exemplaire. Il rend la femme à Abraham tout en lui laissant toutes ses richesses. Donc, c'est un Pharaon, en fait, qui sait écouter la voix de Yahvé, bien que le récit présente pas très bien de quelle manière Yahvé envoie des plaies en Égypte. Mais alors, c'est un Pharaon quand même qui est plutôt...
Bienveillant,
qui n'a pas de problème d'accepter l'intervention d'un dieu étranger, hein, puisque pour lui, Yahvé devrait être un dieu étranger. Et c'est tout de l'opposé, en fait, ce qu'on doit trouver après dans l'histoire de Moïse, parce que lorsque Moïse va négocier avec le pharaon pour dire « mais laisse partir les Hébreux pour qu'ils servent leur dieu Yahvé », Pharaon va dire « mais ce dieu Yahvé, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Et puis, de toute façon, c'est un dieu du désert qui n'a aucun pouvoir. Donc, je vais pas laisser partir les Hébreux. » Donc là, en fait, il y a deux images du pharaon qui sont totalement opposées. Alors que, après, dans l'histoire de Joseph, après, au niveau peut-être de la rédaction, au niveau de la narration, évidemment, Joseph précède l'histoire des Hébreux en Égypte. Là, de nouveau, nous avons un pharaon en fait, qui n'a pas de problème théologique par rapport à Joseph. Les deux, en fait, ils vont pas tellement utiliser le tétragramme Yahvé quand ils parlent de Dieu. Ils vont simplement parler de Elohim. Alors, le terme Elohim est pratique parce qu'on peut le traduire par Dieu au singulier, Dieu avec un D majuscule, si on veut, ou aussi des dieux au pluriel, parce que en hébreu, si vous avez ce mot seul, vous ne pouvez pas décider d'emblée si c'est un singulier ou un pluriel. Mais ce qui est intéressant, en fait, il n'y a pas de souci théologique. Lorsque Joseph interprète les rêves du pharaon, il va dire « Dieu a décidé ceci, cela », et pharaon va dire « oui, mais alors Dieu t'a donné un esprit de sagesse, etc. » Donc il y a pas de problème. Et du coup, ça va aller très très loin parce que Joseph, en Égypte, d'abord, il va y demeurer, il va faire venir ses frères et son père, et surtout, il va épouser la fille d'un prêtre égyptien, prêtre de Héliopolis, donc du dieu soleil, Ra ou Ré, et ça pose aucun problème pour la narration. Et selon cette histoire-là, deux des futures tribus d'Israël, Ephraim et Manassé, qui sont présentés dans ce récit comme étant les fils de Joseph et de sa femme Asenath, ils sont à moitié égyptiens. Mais dans le récit de Joseph, aucun problème. Donc on va très loin là dans l'intégration, alors que dans l'histoire de l'Exode, on va plutôt se focaliser sur l'opposition, la ségrégation, les conflits, etc.
Oui, mais quand même, dans l'histoire de l'Exode, si Pharaon devient si méchant, c'est parce que Dieu, enfin, il avait endurci le cœur de Pharaon. Et ensuite, pour ces histoires de mariage mixte, Moïse, tout de même, a épousé des goyes.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, évidemment, l'opposition, elle existe, mais il faut la modifier. C'est vrai que, à l'intérieur du récit de l'Exode, c'est un patchwork, donc il y a plusieurs sources, plusieurs strates qui se sont combinées. Selon une version, en fait, Pharaon n'a aucun pouvoir, parce que ce Yahvé lui-même qui va, au moment des plaies, endurcir son cœur pour qu'il ne laisse pas partir les Hébreux. C'est assez curieux, mais c'est une manière de dire que le pharaon représentant de tous les dieux d'Égypte n'a aucun pouvoir, donc tout est mis en scène, c'est une sorte de grande mise en scène de pièce de théâtre où Yahvé montre en effet qu'il est plus puissant. Par rapport à Moïse, c'est vrai, on a là aussi un mariage mixte avec de nouveau, et puis je pense qu'il y a un lien quelque part, parce qu'il va épouser la fille d'un prêtre madianite, Tsipora, qui va également lui donner des fils, mais qui joueront moins de rôle dans la suite. Toujours est-il qu'il y a un lien très fort entre Moïse et Madian, qui sans doute aussi garde probablement un souvenir historique en ce qui concerne les origines de la vénération de Yahvé, dont j'avais parlé dans un autre cours justement sur les origines et la transformation du Dieu Yahvé.
Mais que représente l'Égypte dans la Bible? Elle représente l'étranger paradoxal?
L'Égypte a en effet plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Donc l'Égypte, c'est à la fois évidemment, on peut dire, la confession de foi de base, c'est nous étions esclaves en Égypte et Yahvé nous a fait sortir, ou dans le Décalogue, c'est moi Yahvé qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Mais en même temps, on voit aussi que l'Égypte, c'est un pays d'accueil. Il y a des gens qui demandent l'asile politique. Déjà, Abraham, tout au début, bah, il y descend pour des raisons économiques. Mais après, au moment où on parle de l'histoire de la royauté, Jéroboam, qui devient le premier roi du royaume d'Israël du Nord, s'enfuit parce que il est en conflit avec Salomon et il s'enfuit en Égypte, en fait, où il est accueilli. Il y a des prophètes aussi qui s'enfuient en Égypte. Donc l'Égypte, c'est aussi évidemment un pays où, et ça c'est aussi une donnée historique, où on se réfugie pour toutes sortes de raisons quand on est dans le Levant. On sait aussi qu'il y a des personnages que les Égyptiens appellent des Asiatiques en fait, mais c'est des gens du Levant qui font carrière, qui prend un nom égyptien un peu à la manière de Joseph. Et puis après, il y a sans doute aussi une certaine fascination pour l'Égypte. On sait, grâce à l'archéologie, que durant tout le premier millénaire, dans le Levant, on trouve beaucoup de petits, qu'est-ce qu'il faut dire, des sceaux, des amulettes, des bijoux qui sont inspirés par l'art et l'iconographie égyptien. Donc il y a une sorte quand même d'influence très forte de l'Égypte sur le Levant, sur la représentation aussi. Et puis on a, par exemple, dans le livre des Proverbes, des textes de sagesse que quelqu'un a sans doute copiés à partir d'un texte égyptien, la fameuse sagesse d'Amenhotep, qui se trouve plus ou moins repris dans les chapitres 20 à 23 du livre des Proverbes. Donc il y a quand même, on a parlé beaucoup de la Mésopotamie, et c'est vrai, c'est très important, mais l'Égypte a quand même aussi une influence assez importante par rapport à la compréhension et même à la construction des figures et des textes bibliques.
Oui, donc il faut ajouter vraiment l'Égypte à ce patchwork.
Tout à fait.
Qui compose la Bible.
Voilà, donc on n'a pas la Mésopotamie, la Grèce plus tard, mais aussi de l'Égypte. L'Égypte est très très important, d'où aussi mon intérêt là cette année pour la figure de Joseph, parce que je pense que c'est une histoire qui est née dans le contexte des Judéens vivant en Égypte, donc ce qu'on appelle après la diaspora égyptienne.
Éléphantine.
Alors, il y a un groupe installé en Égypte.
Depuis quand, Thomas Romer?
Alors, pour Éléphantine, on pense que ça peut être relativement ancien. Donc, lorsque le royaume du Nord, en 722 avant l'entrée, a été détruit, il est possible qu'un certain nombre de gens du Nord se soient installés en Égypte. Tout à l'heure, on parlait de l'Égypte comme lieu d'exil. Et puis, ils se sont installés par là, lieu d'accueil. Certaines pensent même qu'ils se sont enrôlés dans l'armée égyptienne comme mercenaires.
Ah oui.
Et certains pensent que l'origine en fait de cette communauté d'Éléphantine est liée à ces événements-là. On sait aussi, selon le livre de Jérémie, qu'après la destruction du temple Jérusalem en 587, il y a aussi des Judéens qui, par crainte des Babyloniens, vont s'installer, mais plutôt dans le delta. Éléphantine, c'est important pour nous parce que, par le hasard, mais l'hasard heureux de l'histoire, on a beaucoup de documents qui nous renseignent beaucoup sur la vie de ces Judéens qui vivent là-bas. On sait qu'ils sont dans des situations économiques plutôt intéressantes. Ils se marient avec des Égyptiens ou des Égyptiennes. Ils ont des doubles noms, un peu comme Joseph. Donc il y a l'intégration qui va assez forte. Et d'où l'idée que l'histoire de Joseph peu, en quelque sorte, avoir été écrit pour légitimer un peu ce vie en Égypte. Et il faut peut-être rappeler que le judaïsme égyptien, c'est quand même un judaïsme qui sera très important, libéral sans doute, mais c'est en Égypte où on va traduire pour la première fois le Pentateuque, la Torah en grec. On va avoir des grands philosophes comme Philon d'Alexandrie.
L'Égypte est aussi fait partie du monde grec. Hein,
voilà, disons, donc, à ce moment-là, à partir de l'époque des Ptolémées, déjà à partir de Perse, oui. Il y a en effet là aussi un melting pot, il y a les Grecs, on parle grec, etc. Donc il y a un triangle,
culture,
voilà, il y a à ce moment-là Jérusalem, Athènes et l'Égypte quelque part. Voilà.
C'est ça, oui,
tout
c'est
à fait.
Magnifique. Et Alexandrie, on peut dire.
Alexandrie, voilà, très bien, tout à fait.
Dans l'un des cours sur l'Exode, vous disiez, Thomas Romer, qu'un certain nombre de textes reflétaient les débats de ce temps sur le rapport à l'Égypte, justement.
Il y a en effet, à travers des livres de l'Exode, et surtout aussi du livre des Nombres, dont je vais probablement parler lors de mon prochain cours, des textes où le peuple, en fait, se lamente constamment en disant « Mais pourquoi ?» Sommes-nous sortis d'Égypte? Pourquoi toi, Moïse, ou vous, Moïse et Aaron, vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pour que nous mourions ici dans le désert, on n'était quand même pas si mal en Égypte.
Oui, parce que là, on a faim, on marche sans cesse.
On ne sait pas très bien quel est le but de toute cette histoire. Donc, évidemment, il y a quand on compare avec le livre de l'Exode, une petite contradiction quand même, parce que quand on décrit la situation des Hébreux en Égypte, elle n'est pas décrite de manière très agréable, parce qu'ils sont corvéables, etc. Mais après, il y a une sorte de nostalgie, ce qui est peut-être assez normal, qui va se mettre un peu dans la tête des gens, qui va un peu idéaliser l'Égypte. Derrière, évidemment, si on essaye de comprendre un peu ce débat, ce qui est d'abord intéressant, c'est la question pourquoi. Elle ne reçoit jamais de réponse. Moïse et Aaron disent « Mais cessez de vous révolter, ou Yahvé se fâche, etc. » Mais ni Yahvé, ni Moïse, ni Aaron donnent une réponse à ce pourquoi. Donc on peut se poser la question si ces questions du pourquoi n'ont pas été introduites après coup. Et en même temps, peut-être aussi sur le plan un peu herméneutique, se demander si c'est pourquoi, c'est pas une question qui n'a pas forcément une réponse facile, et puis que c'est une réponse en fait que chaque génération de lecteurs est un peu appelée à trouver. Est-ce que c'est nécessaire de sortir d'Égypte ou pas? Et là derrière, il y a sans doute des débats, mais qui continuent d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, entre la diaspora, entre les gens qui vivent à l'extérieur et ceux qui, en effet, sont dans le pays.
Est-ce que c'est des questions qui se posaient à Babylone, finalement?
Alors, à Babylone, tout autant qu'en Égypte. À l'époque perse, il y avait la possibilité de retourner dans le pays, beaucoup de gens étaient tellement bien intégrés à Babylone et aussi en Égypte qu'ils ne voyaient pas très bien l'intérêt d'abandonner leur situation pour faire un très long voyage, en sachant pas très bien, et on le voit aussi en lisant les textes bibliques, que le retour de ceux qui reviennent vraiment n'est pas un retour qui se passe sans heurts. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont restés dans le pays, qui ont pris les terres et puis qui trouvent que ces gens-là qui arrivent, ils n'ont aucune légitimité. Donc il y a des débats là autour. Mais surtout, il faut rappeler que la plus grande partie des gens qui étaient à Babylone, mais aussi en Égypte, ils sont restés. Ils ne voyaient pas très bien l'intérêt.
Mais jusqu'à présent, et jusqu'à récemment, d'une certaine manière, du côté de Babylone, il y avait la plus grande communauté juive du monde.
Alors justement, le judaïsme babylonien a été, aussi sur le plan intellectuel, très très forte. Et vous savez que tous les débats, les interprétations des rabbins ont été rassemblés dans ce qu'on appelle le Talmud. Alors il y a deux Talmuds, il y a le Talmud de Jérusalem et il y a le Talmud de Bavli, le Talmud de Babylone, qui est considéré d'une certaine manière comme plus important jusqu'à aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'au moins jusqu'à l'arrivée de l'islam, mais même encore après, à Babylone, il y avait un centre intellectuel très fort par rapport au judaïsme. Idem, on a déjà mentionné Alexandrie. Et ce qui est en effet important pour comprendre aussi le judaïsme est né comme une religion de diaspora. Et ça, c'est assez important parce que contrairement au christianisme et à l'islam, il ne s'est jamais allié à un empire pour devenir en quelque sorte religion d'État, jusqu'à 1948, jusqu'à la fondation de l'État d'Israël. Bon, je ne dirais pas que c'est un empire, mais là, ça a un peu changé les donnes quand même. Mais ce que je voulais surtout dire, même aujourd'hui, statistiquement, il y a beaucoup plus de Juifs qui vivent ailleurs dans le monde qu'en Israël. Donc, comment dire, l'identité de diaspora, elle se continue bien aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, la beauté au fond de cette religion, c'est que son unité, c'est le livre.
Voilà.
Ça, et le livre est son territoire, d'une c'est certaine ça. Façon.
C'est pour cela, je pense que, en fait, c'est le judaïsme qui a l'idée même de ce qui est quand même une idée très souvent mise en avant, discutée en France, la laïcité. Parce que en fondant, en fait, son identité religieuse, non plus sur l'État, sur le roi, sur un territoire, mais sur un livre, et un livre dont on dit que les lois qu'il contient ont été données à Moïse dans le désert, c'est-à-dire dans un no man's land, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de politique. Alors à ce moment-là, on fait quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est-à-dire en fait on va séparer la religion de la légitimité politique, royal, et ça c'est assez révolutionnaire. Donc il ne faut pas attendre 1905 pour avoir la séparation. Bon, Église-État peut-être, oui, mais religion et État, c'est le judaïsme en fait, à mon avis, qui a anticipé
inventé,
ça.
Au fond,
voilà,
tout
à fait.
Oui, cette idée.
Et ce qui lui a permis de survivre, parce que contrairement aux deux autres grandes religions monothéistes, il n'a jamais été en fait la religion d'un empire.
Et d'autre part, on a accès via la Bible à ce qui pouvait encore résonner chez les Assyriens, dans l'Antiquité grecque, etc. Et donc, c'est un livre qui, quand on écoute vos cours, prend tout d'un coup une polyphonie absolument extraordinaire et nous met en contact avec bien d'autres civilisations.
Tout à fait, c'est assez important. C'est pour cela aussi que j'avais consacré un cours, ce que j'appelais la condition humaine. C'est surtout les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Et ce qui est intéressant, que justement la Bible juive, elle commence pas avec l'histoire du peuple juif, elle commence en fait avec la création du monde, avec les origines des humains. Et puis, donc il y a en effet, je dirais aussi, dans le texte biblique, cette volonté universelle, universaliste, de dire en fait, on fait partie en fait d'une très très grande histoire qui est celle de toute l'humanité, et notre propre religion en fait s'inspire très très largement. Il n'y a aucune religion en fait qui naît à partir de rien.
Évidemment.
Même si certains le prétendent, mais c'est clair que sont...
Il y a toujours une béance dans
voilà,
les origines.
On reprend toujours quelque chose, on le transforme. Le christianisme fait la même chose avec le judaïsme. L'islam fait la même chose avec le judaïsme et le christianisme. Donc il y a toujours, en fait, on construit sur ce qui précède. Même sur le plan de l'archéologie, on observe quand même que les premières églises étaient toujours construites sur des sanctuaires auteurs dits païens, des Romains ou des Grecs, etc., pour à la fois quand même reprendre les lieux saints, tout en montrant à la fois la rupture, mais en même temps quand même en insistant sur une certaine continuité. Et ça, je trouve, c'est très très intéressant, parce que chaque religion, en fait, il n'y a pas de religion pure d'une certaine manière.
Absolument.
Mais c'est vrai aussi que ce texte, il va être quelque chose qui intègre les différences, voire les divergences, voire les conflits, et qui est déjà ouvert en fait à l'interprétation. C'est-à-dire, on dit souvent, bon, il y a le canon, et après, une fois qu'on a clôturé les ensembles Torah, prophètes et écrits, qu'on va les interpréter. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'interprétation, en fait, elle commence déjà à l'intérieur du texte biblique. On montre très bien que c'est jamais quelque chose qui est clos. On va confronter Moïse avec des cas pour lesquels Yahvé ne lui a pas donné de loi. Je peux vous donner un exemple, c'est dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, il y a deux filles qui viennent voir Moïse et disent, voilà, notre père est décédé, mais il n'a pas d'héritier mâle, donc on veut hériter. Et Moïse est très embêté parce qu'il n'a pas reçu de loi pour ça. Donc il va voir Yahvé et lui dit, ben écoute, qu'est-ce que je fais? Et puis Yahvé lui dit, oui, ils ont raison, donc ils héritent s'il n'y a pas de descendant mâle. Mais l'histoire n'est pas finie. Quelques chapitres après, il y a des gens du même clan qui viennent voir Moïse, on dit, mais cette nouvelle loi-là, elle marche pas, parce que si ces filles vont se marier avec des gens d'un autre clan, on va perdre toutes les terres pour notre clan. Alors Moïse, même sans consulter Yahvé, il dit, bon, alors on va modifier la loi. On va dire, elles peuvent hériter à condition qu'elles se marient à l'intérieur de leur clan. Et donc tout ça est en effet inscrit dans le même livre. Donc c'est une manière aussi de montrer en fait que la loi, c'est pas quelque chose de statique. La loi doit être interprétée.
Est-ce qu'on peut parler un peu de vos livres, Thomas Romer, et peut-être réouvrir justement un certain nombre de questions grâce à eux? On va en prendre quelques-uns, notamment ceux qui sont naturellement en français pour nos auditeurs. Alors, par exemple, Tabou et transgression. Voilà, ça c'est un colloque du Collège de France qui avait été organisé par vous, Michaël Guichard et Jean-Marie Durand. Et alors, dans le compte-rendu, on peut lire que plusieurs communications ont relevé l'importance des interdits alimentaires comme marqueurs identitaires. Et en effet, dans la Bible, les interdits alimentaires sont extraordinairement lourds. Vous parlez également de la loi du talion et les peines de mutilation qu'elle implique, qui relèvent alors plus d'une construction idéologique que de la réalité historique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces tabous et transgressions? Oui. Parce que ceux qu'on connaît le mieux dans notre culture aujourd'hui sont ceux imposés par la Bible, qui d'ailleurs ont été transmises au fond d'une certaine manière à l'islam.
Il y a toujours dans chaque société nécessité d'un certain nombre de tabous. Alors il y a des tabous un peu universels, mais dont on constate aussi que souvent ces tabous ils sont transgressés. Et puis il y a des choses bizarres. Par exemple, quand on a fait ce colloque, que je veux toujours un peu être un colloque interdisciplinaire parce que c'est lié à ma conviction que la Bible, pour la comprendre, il faut aussi entendre ce qu'on dit du côté de la Mésopotamie, l'Égypte, etc. Donc, ce qui est quand même troublant par rapport à un tabou fondamental, qui est celui de l'inceste, dans le Lévitique, on va en fait énumérer au chapitre 18 tous les cas interdits de rapport sexuel. Il y a un cas qu'on n'interdit pas formellement, c'est rapport sexuel du père avec sa fille. Alors ça, c'est quand même très troublant. Très troublant. Alors, soit on dit... Ça va de soi, donc on l'interdit pas.
Enfin, d'ailleurs, il y a un exemple d'inceste père-fille dans la Bible.
Tout à fait, il y a, on peut y revenir tout de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que soit il y a là derrière des coutumes qui, malheureusement, la loi ne peut pas interdire ou ne veut pas interdire, ou il y a quelque chose, il y a quelque chose de troublant. Puis, vous venez de l'évoquer, il y a l'autre cas qui est Lot et ses deux filles. C'est ce cas-là que j'avais travaillé pour ce volume-là, où on voit aussi que il y a un tabou qui est transgressé, sans doute parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que le tabou.
C'est la reproduction.
C'est la perpétuation, parce qu'on voit très bien qu'à l'origine de cette histoire, c'est une histoire un peu qui se situait aux origines du monde.
Parce que là, c'est dans les filles de Lot, ce sont les filles qui incestent et non pas le père.
Voilà, il y a aussi, évidemment, il y a une ironie déjà, parce que tout au début de l'histoire, Lot veut se servir de ses filles pour les offrir, en fait, aux agresseurs qui veulent coucher avec les visiteurs. Et Lot dit, non, mais je vous donne mes filles, ça ne marchera pas. Et à la fin, c'est les filles, en fait, qui se servent de leur père.
Qui enivrent le père.
Voilà, donc il y a une sorte de retournement. Mais ce qui est important aussi, c'est que probablement, ils disent à un moment, on est tout seul avec notre père, il n'y a plus personne, et ça c'est évidemment l'ambiguïté de l'hébreu, il n'y a plus personne sur Eretz. Donc Eretz, soit le pays, ou c'est la terre en général. Si on pense qu'à l'origine, toute cette histoire de Sodome et Gomorre, c'est quelque chose de comparable au déluge, à savoir la destruction de l'humanité par le feu, alors à ce moment-là, la question se pose, s'il n'y a plus que 3 humains survivants, alors comment l'humanité peut-elle se perpétuer? Et donc là, du coup, il y a cette transgression quand même assez importante d'un tabou via l'inceste.
Qui figure dans quand même de nombreuses mythologies sur l'origine du monde.
Oui, tout à fait. Donc du coup, vous voyez, ça nous ramène en fait au sujet tabou et transgression. Donc s'il y a tabou, c'est parce qu'il y a aussi transgression. Et je crois que c'est très fondamental qu'on raconte toujours par rapport au tabou. À la fin, évidemment, on va les lister, les tabous, mais on va toujours aussi raconter des histoires de transgression.
Les interdits alimentaires,
Les interdits alimentaires, en fait, dans la Bible, elles existent, mais elles ne sont pas encore si importantes et si précises que le judaïsme va ensuite les mettre en place, les structurer, etc.
Pourquoi il y a cet interdit du porc, par exemple?
Alors ça, c'est une...
Est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a certains anthropologues qui disent que c'est lié à l'interdit de l'anthropophagie, justement, parce que le porc serait l'animal le plus proche de l'être humain.
Il y a aussi ceux qui pensent que l'animal est lié à des cultes chthoniens, liés aux enfers.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont une explication plus utilitariste en disant mais la viande de porc se conserve très mal et peut être
on
en effet source
quoi,
de... Non,
fait.
On ne sait pas. Ce qu'on sait, que le porc est interdit, mais en même temps, l'archéologie aussi montre que dans le Levant et dans, surtout dans les villes, on a quand même élevé des porcs. Donc, on sait que les Philistins étaient des grands consommateurs de porc, mais les Israélites, les Judéens, jusqu'à l'époque de l'exil, étaient peut-être pas non plus totalement, ils ont peut-être pas encore suivi cette règle qui peut-être est venue
tardivement.
Plus tardivement. Parce que, évidemment aussi, les lois alimentaires font partie de cette identité un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, de mobilité. Vous pouvez vous-même, peu importe où vous êtes, aux États-Unis, ici ou ailleurs, décider de ne pas manger de porc. Mmh. Et puis ça fait partie après de votre identité, comme aujourd'hui il y a des végans, il y a des je ne sais pas quoi. C'est aussi pas seulement une conviction idéologique, parfois ça fait aussi partie parce qu'on va chez deux nièces qui sont dans ce mouvement-là, c'est pas simplement une conviction, c'est aussi quelque chose un peu de constitution d'identité. Donc, ils ont des groupes.
Et une vision du monde aussi.
Une vision du monde, etc. Mmh. Donc, et là, évidemment, les lois alimentaires, ils participent aussi à cela. C'est quelque chose qui est mobile, qui n'est pas lié à un seul endroit, etc.
Alors, juste, si vous permettez, un mot sur la loi du talion, parce que je vois que la loi du talion, vous écrivez, la loi du talion et les peines de mutilation qu'elle implique relèvent plus d'une construction idéologique que de la réalité historique.
Tout à fait.
Or, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est quand même aussi une des lois qu'on assimile, qu'on associe au judaïsme.
Alors, qu'on associe au judaïsme, mais qui a surtout, au niveau de la mise en pratique, a été surtout utilisé par le christianisme et par la charia, par l'islam. En effet, la base textuelle se trouve dans la Bible hébraïque, mais quand on lit attentivement, très souvent, en fait, on dit en effet œil pour œil, dent pour dent, ou alors on peut compenser avec une certaine somme d'argent. Hein. C'est-à-dire, dans les textes bibliques, on voit déjà que c'est un principe sans doute aussi qui se met en place un peu contre la vendetta, c'est-à-dire que il faut que la peine soit quand même, d'une certaine manière, en relation avec la faute commise. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un, je sais pas, vous fait du mal que vous devez tuer 10 de ses descendants, etc. Donc, c'est aussi une manière un peu de contrôler la vengeance qui souvent est sauvage et exagérée, en disant chaque punition doit être quand même relatif à la faute commise. Même pour des meurtres, on envisage dans certains textes du Code d'Alliance qu'il y a une compensation d'argent. Donc c'est pas nécessairement une peine qui doit être appliquée. Donc c'est plus en effet au niveau de la rhétorique que ce principe est important que par l'application en effet pratique.
Thomas Romer, juste deux mots sur le livre d'entretien avec Estelle Villeneuve, La Bible, quelles histoires, parce que au fond c'est un livre qu'on peut se procurer dans n'importe quelle librairie, qui est très facile à trouver. Mais on reprend juste peut-être l'idée que il y a deux récits d'origine contradictoires dans la Bible.
Alors bon, la première grande différence, c'est déjà que le récit patriarcal, Abraham, Isaac et Jacob, est un récit qui se construit sur l'idée des généalogies. Donc on est fils d'Abraham parce qu'on descend d'Abraham, d'Isaac, Jacob, des 12 tribus et des fils des tribus, etc. Donc on se construit une identité par rapport à la descendance. Alors que quand on passe à l'histoire de Moïse, on se rend compte que ces généalogies ne jouent plus aucun rôle. On a des fils de Moïse, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, donc il n'y a pas une lignée.
Moïse lui-même, d'ailleurs, est un enfant trouvé.
Oui, Moïse est un enfant abandonné et trouvé. Le père, on ne sait pas qui il est. Après, beaucoup plus tard, au chapitre 6 de l'Exode, on veut lui donner une généalogie, mais on voit très bien que c'est un peu rapporté, hein. Donc Moïse d'ailleurs n'est pas un ancêtre parce qu'il n'est pas succédé par son fils ou par un de ses fils qui disparaissent en effet un peu dans la nature, mais par Josué qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Et donc l'identité dans le récit mosaïque va se construire plus sur l'acceptation de ce que la Bible va appeler l'alliance ou un contrat que Moïse met en place, donc dont Moïse est le médiateur entre Yahvé et les Hébreux qui se trouvent rassemblés au Sinaï. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas l'idée qu'il faut être hébreu pour accepter ce contrat, c'est plutôt tous ceux qui acceptent le contrat sont désormais peuple de Yahvé. Donc là, c'est pas tellement la généalogie, le sang, qui est constitutif d'identité, c'est l'acceptation d'un contrat, d'un projet de société. Donc c'est un peu aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait comparable, c'est qu'on appelle parfois le droit du sang par rapport à la généalogie et le droit du sol par rapport à l'idée, en fait, on est citoyen d'un pays parce qu'on accepte la constitution, etc. Et puis on a un peu ces deux démarches dans le texte biblique.
Et puis il y a évidemment le rapport aux voisins, en quelque sorte, puisque ça se passe bien pour Abraham avec Pharaon, plutôt très mal, comme on sait, avec Moïse.
C'est ça.
Et puis quand Abraham s'installe à Canaan, ça marche très bien avec les gens qui sont là, finalement.
Voilà, tout à fait, parce que dans l'histoire des patriarches, en fait...
Il n'y a pas d'exclusive.
Non, Yahvé dit de temps à autre à Abraham, je te donne, c'est même pas quelque chose qui va se réaliser. Lorsqu'Abraham est dans le pays, Yahvé lui dit, je te donne le pays, donc pas tellement comme une promesse, mais presque comme un fait, tu es là, donc le pays t'est donné. Mais en même temps, on va dire aussi, il y avait les Cananéens dans le pays. Et nullement, et ça c'est la grande différence après avec Moïse, nullement il est dit à Abraham, il faut que tu chasses les Cananéens, les Hittites, les Hivites et toute la liste.
Là.
Voilà. Alors que dans la tradition de l'Exode qui se poursuit après avec la tradition de la conquête, l'idée c'est quand même que le pays est donné à condition d'en chasser, de massacrer les autres. Donc là, il y a un rapport très très différent par rapport aux autres.
Autre livre, 2013, Clé pour le Pentateuque. C'est paru aux éditions Labor et Fides, qui est une maison d'édition extrêmement savante et je dois dire assez confidentielle.
Oui, malheureusement, c'est dommage parce qu'ils font des livres.
Mais oui,
qui
ils
sont
font
pas
des
si
livres
mal.
Magnifiques. Alors. Je lis « La recherche de ces dernières 40 années a montré que les cinq livres du Pentateuque ont été rédigés pour l'essentiel à l'époque perse, soit entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. » Alors ça, c'est d'une part ce qui
a fait
l'objet
de
ce livre. Voilà. Et vous continuez en disant que la partie la plus novatrice de l'ouvrage concerne les développements consacré au thème clé du Pentateuque, la Torah, la géographie, la composition ethnique de la population, Yahvé et les autres divinités, sans oublier évidemment Moïse, considéré jusqu'au XVIIIe siècle comme l'auteur de ces livres.
Voilà.
Ça, c'est très très intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces travaux, de
Tout
ces clés pour lire le Pentateuque?
C'est un livre qui était d'abord écrit en anglais, que nous avons écrit à 4 personnes, et c'est très intéressant parce que ces 4 personnes, on n'a pas dit, toi tu prends chapitre 1, toi 2, 3. C'est vraiment une écriture presque un peu comme la Bible. C'est-à-dire, en fait, chacun avait évidemment quelques dossiers. Et puis après, on s'est relu, on s'est corrigé. Avec justement l'idée de combiner un peu les approches littéraires avec des approches un peu plus anthropologiques, sociologiques, etc. Et c'est vrai que c'était un peu pour faire le point sur les recherches quant à la formation du Pentateuque. En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, le christianisme et le judaïsme ont considéré que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Il y a toujours eu des petites contestations, mais c'était seulement à partir de Spinoza et d'autres que petit à petit, on s'en est défait pour découvrir en fait que le Pentateuque et une sorte de projet collectif, mais qui intègre justement des thèmes, mais aussi des traditions textuelles très très différentes les uns des autres. Et le livre voulait un peu faire le point là-dessus, surtout aussi sur cette idée que c'est à l'époque perse, donc au moment où petit à petit le judaïsme va se mettre en place. En fait, c'est presque un peu en même temps. Le Pentateuque naît presque en même temps que le judaïsme, on peut dire, donc parce que c'est la base en fait. Donc les clés pour comprendre le Pentateuque, comme c'était dit dans la traduction française, c'est un peu d'aborder le Pentateuque à partir des grands thèmes, le pays, Moïse, les frontières, le rapport avec les autres, tous des thèmes qui vont évidemment être très très importants pour le judaïsme.
Encore peut-être un dernier livre, La faute et sa punition dans les sociétés orientales. La littéralité, la lecture littérale est une divinisation du texte et n'a pas grand-chose à voir au fond avec son contenu d'une certaine manière.
Absolument, je crois que c'est quand même, quand on regarde la situation actuelle de nos sociétés, je crois que c'est quand même une des menaces les plus inquiétantes qui à la fois concerne le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est-à-dire qu'on va prendre de nouveau des textes dont on va prétendre qu'on le lise tels qu'ils ont été révélés, alors que du coup on va appliquer des choses qui n'ont jamais été écrites pour être appliquées. C'est ça un peu le moment tragique de tout cela, parce que quand on prend par exemple l'histoire du livre de Josué. On dit qu'il faut en effet tuer tous les Cananéens qui se trouvent dans le pays. Bah, évidemment, on sait, historiquement, ça ne s'est jamais passé comme ça, que le judaïsme ne l'a jamais fait, alors qu'au moment des croisades, on s'est fondé sur ces textes-là pour légitimer justement les croisades. Donc il y a dans ce prétendu littéralisme surtout un agenda politique qui prime et qu'on va légitimer après avec un recours au texte. Et c'est quand même très très inquiétant. Donc de toute manière, je mets au défi n'importe qui de pouvoir faire une lecture, une application littéraliste des textes bibliques. C'est tout simplement impossible. Personne peut le faire. C'est-à-dire,
il y a tout et le contraire de tout.
Oui, alors justement, déjà, c'est le contraire de tout. Alors, si vous voulez le faire,
c'est magnifique parce qu'il est en fait d'emblée fissuré, quoi. C'est pas un bloc.
Il est contradictoire. Il rassemble des choses très différentes.
Il est paradoxal, il est intéressant.
Donc, ce qui m'a aussi relativement, quand même, ou pas relativement, mais qui m'a beaucoup énervé lors de ce débat sur mariage pour tous, ce rapport au texte lévitique où les rapports homosexuels sont interdits alors que c'est encore plus compliqué, mais peu importe. Mais personne n'a suivi la chose parce que si vraiment on veut se baser littéralement sur ce texte, bah, il faut réintroduire la peine de mort pour les rapports homosexuels. Donc je pense même Madame Butin n'est pas allée jusqu'à là. Donc mais on va quand même les limites. Et puis il faudrait réintroduire l'esclavage, il faudrait réintroduire la polygamie, oui. Il faudrait réintroduire l'inégalité homme-femme. Donc il faudrait totalement changer notre société. Le littéralisme m'inquiète beaucoup. Mais en même temps, le vrai littéralisme est tout simplement impossible. Disons, les gens ne l'admettent pas, parce que chaque littéralisme a aussi déjà une interprétation du texte. Mais les gens ne le disent pas. Ils disent, nous on n'interprète pas le texte, on le prend tel qu'il est. Et ce qui n'est pas vrai.
Thomas Romer, vous préparez actuellement pour une grande maison d'édition américaine spécialisée dans les études bibliques la publication d'un commentaire sur le livre de l'Exode qui tiendra compte des nouvelles orientations des recherches bibliques. Alors, vous avez fait court sur le livre de l'Exode. Je pense que beaucoup des choses qui se retrouveront dans ce livre, nos auditeurs peuvent aller les entendre sur le site internet du Collège de France en réécoutant vos cours. Mais en même temps, moi, je voudrais savoir comment vous travaillez finalement. Oui. Parce que vous devez être tout de même un peu archéologue. Vous faites du travail sur les textes. Mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu rentrer dans l'atelier, oui. Dans l'atelier du chercheur que vous êtes, les langues, comment vous les pratiquez. Vous êtes en contact, je crois, permanent avec le grand archéologue Phil Kutstein,
oui,
qui travaille.
Tout à fait. Je reviens d'ailleurs d'Israël.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu?
Oui, bien sûr. Je pense, en effet, aujourd'hui, pour les sciences bibliques, on peut plus simplement rester avec le texte. Évidemment, le texte est très important. Quand je prépare mes cours, là, sur l'Exode, il y a aussi un autre petit livre là qui est paru sur Moïse en version originale où je reprends un certain
formidable,
nombre
oui.
des observations et qui va m'aider pour préparer ce commentaire. Donc je pense qu'il faut évidemment travailler avec le texte. Il faut d'abord voir sur quel texte je vais travailler parce que dire le texte, c'est déjà faire une interprétation parce qu'il y a plusieurs manuscrits. Il y a le texte grec qui n'est pas toujours identique au texte hébreu. Donc, il faut commencer déjà par un travail de comparaison de textes pour voir quel, selon l'avis du chercheur, pourrait être le texte le plus ancien sur lequel on va se baser. Et après, pour comprendre ce texte, ben, évidemment, il faut... Ça, c'est un peu ce que je dis aussi à Estelle Villeneuve. J'aime beaucoup les romans policiers, donc il y a un peu une démarche d'enquête, c'est-à-dire il faut se dire est-ce que ce texte, est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il y a des indices qu'il est fabriqué à partir de plusieurs morceaux, est-ce que quelqu'un a rajouté des choses, etc. Et ensuite, il faut évidemment aussi se poser la question des choses matérielles. Quand le texte, je ne sais pas, parle de Pitom, de Ramsès, pour prendre l'exemple de l'Exode, à quelle réalité cela fait référence. Donc, du coup, alors, il faut aller voir un peu ce qu'ils nous disent les archéologues, les égyptologues, etc. Et bien sûr, les données archéologiques sont très importantes. Quand un texte mentionne, par exemple, le sanctuaire de Bethel, et l'archéologie nous dit que ce lieu a été apparemment détruit à partir du 7e, 6e siècle. Est-ce que c'est une indication? Pas nécessairement, mais ça peut être une indication que ce texte pourrait avoir des origines plus anciennes. Donc il faut en effet faire cohabiter les analyses textuelles. Et là, vous pouvez... Bon, heureusement, aujourd'hui, avec l'informatique, ça, il faut peut-être aussi le rappeler, ça a quand même beaucoup révolutionné les recherches partout, mais aussi au niveau de la Bible. Avant, vous aviez les concordances papier, vous passez des heures, des jours, je me souviens quand je faisais ma thèse, pour voir, disons, quels termes sont combinés de telle ou telle manière dans toute la Bible. Aujourd'hui, vous donnez ça à l'ordinateur, en une seconde, il a le résultat, et puis avant, on passait des heures et des heures. On a évidemment des outils nouvelles, on a aussi des découvertes nouvelles au niveau de l'archéologie qu'il faut évidemment intégrer. Donc je pense en effet il faut être un peu touche à tout. Je me présente jamais comme archéologue, mais en même temps je trouve que c'est très important d'être en contact étroit avec les archéologues, d'où aussi mes contacts assez fréquents avec Finkelstein et d'autres.
Alors,
d'autres
vous
collègues.
Revenez là de...
Voilà, je reviens de Tel Aviv.
Quel est le travail que vous conduisez avec Finkelstein actuellement?
Alors, on a un très grand projet qui implique aussi les universités suisses sur archéologie et analyse du texte biblique. Donc, en quoi les archéologues peuvent aider le bibliste à mieux comprendre le texte, mais aussi en quelle manière les hypothèses des biblistes peuvent être utiles ou non pour les archéologues. Parce que souvent aussi, on se rend compte que... Heureusement, c'est pas tellement le cas maintenant pour Tel Aviv, mais traditionnellement, les archéologues avaient quand même aussi souvent un rapport très naïf à la Bible. Donc, ils trouvaient un site et puis après, bah voilà, ils ouvraient les textes bibliques en disant ça c'est mentionné là. Donc,
voilà. Cela dit, ça s'est fait avec Troie, par exemple.
Oui, non, c'est pas seulement c'est pas seulement la Bible. C'est-à-dire, il y a une sorte de, on peut le comprendre aussi, il y a cette excitation du découvreur qui découvre, puis après on dit voilà, c'est Troie ou c'est je sais pas quoi. On a un cas très intéressant actuellement parce qu'on a un site qui a été découvert il y a 7 ou 8 ans par un archéologue que je fais venir aussi au Collège de France, Joseph Garfinkel, Kirbet Kayafa. Donc c'est un site magnifique dans la Shefela, donc dans la plaine, qui clairement date du 10e siècle. Donc l'époque où traditionnellement on situe les origines, la royauté, Saül, David. C'est un site qui date de cette époque-là. Et donc, Garfinkel, tout de suite, a dit, bah voilà, ça prouve l'historicité de David. Mais en fait, pourquoi ça prouverait l'historicité de David? Le problème, c'est que lui a fait tout de suite un lien entre 10e siècle, David, et puis l'identification du site qui l'identifie à une ville, mais c'est pas accepté par beaucoup de monde, une ville du nom de Shaarim, qui veut dire les portes ou les deux portes, parce qu'il pense qu'il y avait deux portes dans cette ville, ce qui est déjà aussi contesté. Donc, vous voyez, l'archéologie aussi a toujours besoin d'interprétation. Mais voilà, alors Shaarim, dans un texte, il est dit, lorsque David avait battu Goliath, les Philistins se sont enfuis en direction de Shaarim. Hop, voilà, ça prouve la véracité du récit biblique.
Mais actuellement, il y a aussi beaucoup de trouvailles qui prouveraient, par exemple, le temple de Salomon et des choses comme ça.
Oui, alors lui a trouvé, mais c'est encore le même. C'est-à-dire,
c'est assez mythique.
C'est un peu du n'importe quoi. Disons, c'est pas du n'importe quoi. Il faudrait faire un autre un autre entretien sur l'importance encore jusqu'à aujourd'hui de l'archéologie dans la construction identitaire de l'État moderne d'Israël. Mais ça, c'est un autre sujet encore. C'est très important que les archéologues en Israël, c'est un peu des, je vais pas dire des héros nationaux, mais quand on trouve soi-disant le palais de David ou le palais d'été de David, on est sur la une, à la télé, les grands archéologues, ils sont très connus. Il y a Madame Elat Mazar qui fouille dans la cité de David et puis qui prétend elle aussi d'avoir trouvé des traces du temple, ce que Finkelstein conteste, mais elle est constamment à la télé. Donc, mais ça montre aussi une chose et qu'il faut souligner, que l'archéologie est tout autant une science qui a besoin d'interprétation que les sciences littéraires. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'archéologue trouve une pierre, une maison ou que sais-je encore,
trois vases,
qu'on a déjà une interprétation.
Bien sûr.
Du coup, c'est vrai que Pafa en prétend, parce que jusqu'à maintenant, on a peu de traces, on n'a aucune trace en fait du grand empire de Salomon, donc on va chercher évidemment toutes sortes de traces. Alors justement, Garfinkel à Kirbet Kayafa, il a trouvé une sorte de petit modèle d'un sanctuaire. Il a dit voilà, c'est le modèle du temple de Salomon. Mais quand on regarde le récit biblique et ce modèle,
ça n'a pas grand-chose à voir.
Pas beaucoup. Mais évidemment, vous avez plus de chances d'être sur la une et à la télé quand vous parlez du temple de Salomon, du palais de David, que quand vous dites « Ah, c'est un truc magnifique du Xe siècle ». Donc ça, c'est évidemment... Il y a peut-être aussi un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, un peu de la politique...
Fiction.
Oui, quelque chose, voilà. Mais du coup aussi, évidemment, c'est plus facile d'avoir des subsides pour faire les fouilles. Les fouilles, ça coûte cher, donc il faut avoir de l'argent. Et donc, quand on dit, on va trouver preuve de l'existence de David, de Salomon, c'est plus facile.
J'aimerais bien un jour faire un entretien avec vous sur l'invention des lieux sacrés. Ça m'amuserait beaucoup. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
Alors ça, justement, ça fait partie un peu de ce projet que nous avons, un peu de reprendre... parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont mentionnés dans les récits bibliques qu'on n'arrive pas à identifier dans certains.
On sait déjà que, par exemple, Sion n'est pas la montagne.
Non. Et après, justement, les lieux se déplacent.
On sait, par exemple, que le mont Sinaï a été baptisé Sinaï par des moines au 4e siècle.
Voilà, c'est ça. Pas des chrétiens au 4e siècle qui cherchaient un endroit.
Et donc.
Donc, il y a peut-être, en effet, ça, j'en parle un peu dans mon livre sur l'invention de Dieu, il y a peut-être, en effet, un souvenir historique d'un Dieu Yahvé lié à une montagne, ce qui est tout à fait courant et normal. Mais quand on regarde de manière attentive les récits bibliques, cette montagne, elle devait se trouver plutôt dans la Jordanie actuelle, grosso modo, c'est-à-dire entre l'Égypte et la Judée, un peu dans le Negev, quelque part à l'est ou à l'ouest, c'est plus compliqué à dire avec certitude, mais certainement pas là où après on a mis ce qu'on appelle aujourd'hui en arabe le Djebel Moussa, le mont de Moïse, ou le mont Sinaï dans la tradition chrétienne.
Merci beaucoup pour cet entretien, Thomas Romer.
Merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Thomas Romer, titulaire de la chaire Milieu biblique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.